Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme les deux semaines précédentes, sera Hakim El Karoui, auteur de L'avenir d'une exception, aux éditions Flammarion. Alors voilà donc deux semaines que nous sommes avec Hakim El Karoui. Il nous a explicité pourquoi l'émergence d'une troisième mondialisation faisait que le libre-échange ne pouvait plus fonctionner et qu'introduire des éléments de protectionnisme était absolument nécessaire. Nous avons essayé de voir les arguments de ceux qui s'opposaient au protectionnisme et ce qui faisait que, et les politiques et les médias étaient plus ou moins imperméables à cette idée. Mais enfin, il me restait dans la tête un des arguments qu'avancent ceux qui prônent le libre-échange. Je l'ai donc dit à Hakim El Karoui et vous verrez. En introduisant la toute première émission, je vous disais qu'Hakim El Karoui, ancienne plume de Raffarin, ce qui pouvait faire grincer les dents, était vraiment attentif aux humbles et à la volonté du peuple. Vous allez en avoir la preuve évidente. Moi, ce que j'entends comme propos dans ceux qui soutiennent le libre-échange, c'est que de toute façon, il y a des industries, enfin, il y a des secteurs qui n'ont plus validité à exister dans notre pays. Et qu'effectivement, le progrès technique veut que ça soit fait autre part, que c'est très bien. Et que les gens qui travaillaient dans ces secteurs-là, vont, grâce à la formation, vont trouver à se réemployer ailleurs. Ouais. Donc il n'y a pas de problème.
Alors, donc, ces gens-là, ils ont jamais vu un électeur, hein, déjà. Ils n'ont jamais discuté avec un ouvrier qui avait été licencié. Je voyais sur le site du Monde, en réaction à... Il y a eu plusieurs tribunes sur le protectionnisme, quelqu'un qui signait ex-salarié du textile. Je préfère avoir payer mes chaussettes plus chères et avoir moins de voisins au chômage. Je pense que c'est un peu schématique, mais je trouvais que c'était le débat était extrêmement bien résumé. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. Je ne crois pas que en Europe... on puisse considérer qu'on va faire de l'industrie textile classique, qu'on puisse être compétitif aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est plus le cas. Alors on va faire du textile à très forte valeur ajoutée, on va faire tout ce qu'on veut, bon, les autres en font aussi, hein. Mais pour des raisons de coût de la main d'œuvre, pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de baisse des coûts des transports, etc., il est normal qu'il y ait une relocalisation des industries ou des activités en règle générale. Donc il ne s'agit pas de dire... On fige le monde dans une réalité passée où on va embellir le passé, etc. Je crois vraiment qu'il faut regarder l'économie et son évolution de façon tendancielle et puis en regardant l'avenir et pas le passé. Bon, donc il va y avoir des respécialisations, etc. Mais la question c'est comment on les gère, à quel rythme et avec quelle idée de notre industrie à nous. Comment on les gère, c'est très important parce que la requalification des salariés, c'est clairement une des clés du système. Mais d'abord, il faut avoir la bonne analyse, donc pas considérer que les pays du tiers-monde sont des idiots, des analphabètes et qui vont faire des t-shirts pendant que nous on fait des Airbus. Ça marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de requalifier extrêmement vite et vraiment à un bon niveau. Donc il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On a un système de formation professionnelle qui fonctionne extrêmement mal. On a un système de redistribution qui aujourd'hui explose, hein, parce que on voit bien la dette publique, etc. On subventionne les salariés peu qualifiés, hein, les 21 milliards d'allègements de charges, c'est des subventions aux emplois peu qualifiés. Donc on voit bien qu'on arrive au bout du système, qu'on n'y arrive plus. D'où l'idée de dire, bon, on prend un peu de temps. On prend un peu de temps, pas pour se reposer sur nos lauriers passés, mais pour dire aux gens, ben, on va essayer de débloquer un petit peu la société française qui, en fait, plus le système pèse, plus la société française se bloque. Donc, moins on peut faire de choses et de mieux allouer les ressources, de mieux faire en sorte que ben, ceux qui n'ont pas accès au système de formation, aujourd'hui, y aient accès. Et ça veut dire faire des arbitrages. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire des arbitrages. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les Français... à mon avis, sont dans une vision du monde qui est une vision noire, tout le monde le sait, mais qui est, il n'y a pas d'horizon à la compétitivité toujours plus importante, parce qu'on se dit, mais de toute façon, ils seront toujours plus compétitifs. Donc là aussi, il faut pouvoir donner des limites. et dit on va réguler les flux commerciaux, ça permet de dire il y a une limite, on va pas vous demander de travailler 50 heures par semaine, on va pas vous demander de baisser les salaires comme ça c'est fait en Allemagne. On va essayer de garder une certaine forme de, on va appeler ça notre modèle social ou je sais pas quoi, peu importe à la limite, mais on va pas vous demander de faire des sacrifices qui ont pas de sens ou que vous voulez pas accepter. Et puis après tout, c'est quand même la majorité de la population qui décide en démocratie. Ça, c'est un deuxième point. Et puis je pense qu'il y a une idée vraiment dont il faut sortir, c'est que il y a le Nord et puis il y a le Sud. Aujourd'hui, les intérêts dans ce débat-là, ils sont les mêmes dans les élites du Nord et les élites du Sud. La nouvelle classe chinoise qui s'enrichit, qui a pas besoin de payer, de répercuter l'augmentation de la productivité de ses salariés parce qu'il y en a tellement, et puis ils les tiennent tellement via le régime autoritaire, cette nouvelle classe, eh ben, elle a les mêmes intérêts que l'élite qui souvent est pleine de bonne volonté européenne ou américaine. Donc il faut sortir de cette idée, il y a le Nord, il y a le Sud, et je crois qu'il faut reconsidérer les rapports de force, encore une fois, internationaux et puis à l'intérieur des sociétés.
Et souhaitez-en mon compagnie de Hakim El Karoui pour son livre « L'avenir d'une exception ». Alors, il se trouve que j'avais une question depuis longtemps dans la tête, celle de savoir comment les partisans du libre-échange qui causent les dégâts, les inégalités évidentes que nous voyons, pouvaient se justifier moralement à leurs propres yeux leur soutien à ce système, à cette idéologie. Et dans le livre d'Hakim El Karoui, il y avait des réponses. Alors je l'ai lancé sur cette piste.
Tout à l'heure, vous aviez utilisé, ça remonte à loin dans l'interview, vous avez dit, l'idée c'était derrière ces conceptions économiques, protectionnisme ou libre-échange, il y a une vraie vision de la société. Vous voulez dire quoi ?
Je voulais dire qu'il y avait une vision qui était fondée sur les inégalités. Et ces inégalités, via l'idée dont je parlais, d'inégalité protectrice, qui est que d'abord, il y a une différence entre le Nord et le Sud et qu'on gagne dans la division internationale du travail parce qu'on est du bon côté, que ça se traduit par le choix du libre-échange, des avantages comparatifs qui sont toujours favorables au Nord au détriment du Sud, et que comme on sait très bien que ça crée des inégalités, en fait, on fait de la redistribution qui permet, c'est l'idée de John Rawls sur la justice, il dit si tout le monde en profite, c'était l'idée de Clinton, hein, la mer monte mais tous les bateaux en profitent et aucun reste de côté ou reste sur le quai. Bon, je crois que c'était vraiment ça l'idée d'inégalité protectrice. On va jouer sur le système mondial, on va jouer sur la spécialisation économique, et via l'augmentation des richesses d'abord et via la redistribution, en fait tout le monde en profite. Je crois que cette idée-là ne marche plus, d'abord parce que comme je le disais, il n'y a plus de la spécialisation entre le Nord et le Sud ne fonctionne pas, les avantages comparatifs ne fonctionnent pas, et la redistribution, on arrivait au bout du système, parce que le système coûte trop cher. Alors, on peut dire, il suffit de faire comme les Anglais ou les Américains, baisser le coût du travail peu qualifié, donc baisser énormément le SMIC par rapport à la réalité française, mais ça, les Français n'en veulent pas. Donc, on peut aussi considérer qu'il faut faire ce qu'ont fait les Allemands, faire énormément de gains de compétitivité en travaillant plus, en remboursant moins les prestations sociales, en baissant énormément les impôts, etc., en mettant un peu l'économie sous tension et la société sous tension. Mais moi, je crois que les Français ont déjà dit qu'ils n'en voulaient pas. Même si, moi, je trouve que c'est cohérent avec le système. Donc, je crois que l'inégalité ne marche pas. Ensuite, pourquoi c'est une vision de la société ? Parce que dans le libre-échange et dans la mondialisation, en fait, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est ceux qui sont toujours plus compétitifs dans le marché qui est de plus en plus mondial. Donc quand vous avez une qualification très importante, quand vous êtes un très grand chercheur, quand vous êtes un très grand financier, quand vous avez une capacité industrielle, quand vous avez, à la limite, peu importe, une capacité qui vous situe sur le marché mondial, ou du coup vous avez une capacité qui est rare, du coup comme elle est sur un très très grand marché, elle va être payée très cher. Donc vous allez y gagner. Et en fait, on se rend compte que l'élite française est très nombreuse à y gagner, parce qu'il y a des très grandes entreprises, parce qu'il y a des gens de très haut niveau, etc., contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on dit. Et du coup, cette élite qui, encore une fois, est souvent pleine de bonne volonté, se dit, mais enfin, nous, on y a réussi, on n'est pas quelques-uns, on n'est pas 1%, on est 10, 15%, 6, 7, 8, 10 millions de la population, il faut que les autres puissent y aller. Donc, ce qui est possible pour nous est possible pour les autres. Et la preuve, c'est que, regardez l'école. L'école, il y a eu un mouvement ascendant de connaissances, d'alphabétisation d'abord, de connaissances, d'accès au baccalauréat. Entre 86 et 95, on est passé 35% d'une classe d'âge à 60% d'une classe d'âge qui a eu le baccalauréat. Donc, la vieille idée des Lumières, du progrès de l'esprit humain qui a vraiment connu une accélération extraordinaire, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, et c'est à mon avis le problème de l'école, c'est que ben, on plafonne. Si on prend les chiffres du bac, depuis 10 ans, on plafonne à 60%. Alors, les profs disent c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Les gouvernements disent, mais rigolez pas, il y a 300 000 élèves de moins, le budget a augmenté de 20%. On ne peut pas mettre plus de moyens, alors on peut peut-être mieux l'organiser. Hein. Mais c'est pas un problème de moyens. Et je crois qu'en fait, derrière, ben, les gens se disent, ben, il y a les moyens. Il y a toutes les inégalités du monde qui sont une réalité, mais enfin globalement le système permet quand même, et je pense que c'est pas totalement faux, de repérer les gens qui sont bons, etc. Donc ceux qui n'y arrivent pas, ben, ils sont inégaux, ils sont moins intelligents, et je crois que ça participe à cette idée, cette montée, cette justification de l'idée d'inégalité dans la grande élite française. Et puis donc, si on reprend la mondialisation, ben, on se rend compte qu'il y a les autres. Ceux qui n'ont pas une capacité mondiale, alors il y a les milieux peu qualifiés, les ouvriers, etc., à qui on a dit depuis franchement assez longtemps qu'on faisait une croix sur eux. Hein. D'ailleurs, on les met dans des cités. Bon, comme il y en a beaucoup d'origine étrangère, finalement, ça ne nous dérangeait pas parce qu'en fait, ils ne votaient pas. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que c'est la classe moyenne qui se rend compte qu'elle ne bénéficie pas du système. Ses salaires n'augmentent pas. Il y a une polarisation entre le haut et le bas de la société de plus en plus importante. Et la classe moyenne a peur. Alors ça se manifeste différemment, beaucoup par des votes extrêmes. Alors il y a eu le vote du référendum, il y a les votes pour les extrêmes, hein, parce qu'on se dit, bah, finalement les ouvriers, c'est les étrangers, etc. Donc, on va voter Le Pen en se disant, bah, il y a quelqu'un en dessous de nous, et ça rassure de se dire qu'il y a quelqu'un en dessous de nous, mais il y a de plus en plus de gens comme ça qui disent, bah, nous on est hors système, nous on n'est pas entendus, nous... et franchement ça c'est quand même dangereux sur un plan strictement politique. Et donc je pense qu'il faut réguler aussi cette évolution de la société en redonnant du temps, en redonnant un peu de perspective à la classe moyenne et si on peut au milieu populaire pour leur dire ben, vous avez toujours votre place. Aujourd'hui on leur dit vous n'avez plus votre place.
Des sous et désormais on est toujours en compagnie d'Akimel Karoui, auteur de L'avenir d'une exception.
Il y a un petit truc que j'ai pas compris mais qui m'étonne au moment où vous disiez que l'inégalité protectrice finalement elle fonctionnait parce qu'il y avait de la redistribution. C'était un peu ça l'idée. Il y avait des inégalités, mais ouais. De toute façon, ça allait être redistribué, donc ça protégeait un peu tout le monde.
Ouais.
Et ça suppose que certaines personnes pensent qu'on peut se satisfaire de l'idée de bénéficier de la redistribution, c'est-à-dire de ne pas gagner légitimement sa vie.
Parce que la redistribution... Non, pas tout à fait. Enfin, alors, il y a. Alors, parmi les électeurs de droite, il y a clairement l'idée qu'il y a ceux qui profitent du système. Quand vous lisez Le Point, c'est vraiment devenu l'hebdomadaire poujadiste. Vous vous rendez compte qu'il y a une sur deux entre ceux qui profitent du système, ceux qui paient pour les autres, ceux qui se lèvent tôt. Et c'est un peu l'idée de Sarkozy. Hein. Et en gros, il y a toujours deux France. Il faut organiser le conflit entre les deux France. Et c'est comme ça qu'on avance. Moi, je crois... Ça existe. Hein. Ça existe, c'est clairement le cas. Mais la question, comme d'habitude, c'est quantifié. Entre s'il y a 1% de la population qui fait ça ou s'il y a 10%, ça n'a pas le même sens. Moi je crois qu'il y a peut-être 1%, il n'y a en tout cas pas 10%, c'est une évidence absolue. Donc là, il y avait l'idée très à gauche, hein, les socialistes vont tous vous dire oui il y a des problèmes mais pour les régler il faut faire de la redistribution, donc on va augmenter les impôts, etc. Il y avait l'idée que la redistribution suffisait. Enfin, je crois que la réalité suffit à montrer que la redistribution ne suffit pas. Il n'y a qu'à être allé une fois dans sa vie dans une cité pour savoir que la redistribution ne suffit pas. Donc après, on peut dire, eh ben, il faut aller à fond dans le système, en disant ben, il va y avoir des inégalités, mais après tout, elles sont justifiées et il faut faire de la compétitivité, etc. On essaie d'améliorer l'offre. Il y a ça, c'est plutôt la droite. La gauche va dire, on va faire de la redistribution, mais elle reste dans le système. Donc la droite et la gauche sont complémentaires, hein, d'où les alternances, d'où les cohabitations, etc. Parce que les gens disent... Non pas qu'il n'y ait pas de différence, mais il y a une vraie complémentarité. La droite fait essaye d'améliorer la compétitivité, et puis la gauche fait l'accompagnement social. En fait, en gros, c'était ça, la répartition des rôles. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il me semble que les gens disent, ben non, on veut ni de l'un, la redistribution n'a plus les moyens, la productivité, ça va trop loin, et puis ça nous donne pas de perspective, donc on cherche autre chose. Bon, sauf que en fait, le logiciel est tellement implanté dans les têtes des décideurs, des journalistes, etc., de droite comme de gauche, qu'on n'arrive pas à se dire qu'il y a... Il y a autre chose. Voilà. Donc moi, je crois que la redistribution, clairement, ça marche plus. Et que surtout, c'est extrêmement dangereux de dire qu'on peut y arriver avec la redistribution. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Hein. Mais je crois qu'il faut non pas se dire on va améliorer le système, mais dire il faut changer un petit peu en tout cas le système.
Par le protectionnisme.
Ah bah oui, 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 par le protectionnisme. Qui, encore une fois, ne va pas régler tous les problèmes, mais va introduire un phénomène nouveau, enfin un élément de régulation nouveau, qui est très largement le temps. Et qui va dire aux gens, on va piloter l'évolution de vos métiers, on va piloter l'évolution de vos formations, on va réintroduire, on va mettre l'État là pour faire ce pilotage, et pas le mettre, ne plus faire de l'État qu'un instrument qui va faire de la redistribution. Hein. Vous savez, 4% du budget national, c'est le régalien. 24%, c'est les prestations sociales. Hein. Enfin, on voit bien comment fonctionne l'État aujourd'hui. Et moi, je pense que l'État est archi-légitime pour faire cette politique industrielle au sens vraiment le plus noble du terme, et qui consiste pas à dire on va nationaliser une entreprise, on va non, c'est-à-dire ben voilà, il y a une stratégie à avoir pour les hommes, pour les entreprises, pour la formation, pour les jeunes, etc. Et cette stratégie aujourd'hui, on la voit pas tout simplement parce que on se donne pas les moyens de la piloter.
Et oui, donc, c'était la fin de la troisième émission faite avec Hakim El Karoui, qui a écrit L'avenir d'une exception aux éditions Flammarion. Alors moi, ce que j'aime chez Hakim El Karoui, c'est, outre la pertinence de ses propos, c'est qu'il donne, lui et contrairement à bien des commentateurs divers, économistes, politiques ou sociologues, une image positive des Français et des valeurs dont nous sommes porteurs. Son livre est un beau livre, passionnant, plein d'espoir, si du moins les politiques savent un jour être plus attentifs aux arguments protectionnistes. Je ne peux que vous conseiller à nouveau la lecture de son livre, à nouveau que d'aller sur le site qu'il anime, www.protectionnisme.eu. Vraiment, filez-y, quoi. Alors la semaine prochaine, pour l'instant, on est un peu dans le doute. Soit on écoutera Lim Hong Nok sur un petit livre qu'il a écrit sur les impôts. Autrement, on écoutera Frédéric Lordon sur le slam. Alors c'est pas que des sous a changé d'orientation et qu'on s'est mis à la musique. C'est une proposition qui concerne, comment dire, les investisseurs en gros. Vous pouvez en savoir déjà beaucoup en lisant Le Monde diplomatique du mois de février. Voilà, à la semaine prochaine, donc, avec Lim Hong Nok ou Frédéric Lordon. À bientôt.